Le vendredi 11 août, il fait beau à Montréal en ce moment. C'est Kevin Breton au micro pour cette émission de Canal M. M l'été, le magazine que j'ai le plaisir de tous les vendredis en remplacement de Clotilde Seille. Je pense que le thème de l'émission aujourd'hui, un esprit sain dans un corps sain. Je vous présente dans un instant les invités qui seront à la table aujourd'hui et je reviens également dans un instant avec les manchettes. Très heureux de revenir au micro de Canal M aujourd'hui. Une émission chargée. Il y a déjà des gens en studio avec moi aujourd'hui. Puis tant qu'à les avoir en studio, ben, je vais peut-être les présenter tout de suite. Il y a Lydia Borges. Est-ce que je prononce bien votre nom?
C'est parfait.
Tout à fait. Oui, on va se parler un petit peu plus tard dans l'émission d'une pièce de théâtre que vous êtes en train de concevoir, dont le thème principal est l'Alzheimer. Ça promet, j'ai déjà très hâte.
Merci.
Et Sylvie qui est avec nous aujourd'hui encore pour
Bonjour.
Une chronique. Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Il fait beau aujourd'hui, on est bien, hein, finalement, après des jours de pluie.
On dirait qu'on vit l'été en concentré.
Tout à fait, oui, c'est vrai. Et puis, l'été tire à sa fin et bien la rentrée scolaire qui approche bientôt, ça peut être une source de stress et d'angoisse pour tout le monde, pour les parents, pour les enfants. Et aujourd'hui, bien, vous allez en mettre des livres, des suggestions lecture pour nous aider à contrôler.
Pour aider les parents, pour aider les familles aussi, des outils qui ont été développés par un centre de communication en santé mentale, celui de l'hôpital Rivière-des-Prairies, là où je travaille. Alors, il y a des choses vraiment des petits bijoux dont personne ou presque connaît l'existence, alors il est temps que ça change.
On va révéler ces trésors-là dans l'émission. J'ai commencé en vous lisant quelques nouvelles qui ont retenu mon attention à moi et à notre recherchiste aujourd'hui. Ben, tout d'abord, une expédition en vélo pour 7 cyclistes avec une déficience visuelle qui partent sur la véloroute. Donc, du 21 au 24 août prochain, 7 personnes avec une basse vision accompagnées d'un guide cycliste vont sillonner la région pendant 4 jours sur leur circuit de la véloroute des Bleuets, que je ne connais pas, mais ça semble très beau selon les images qui sont disponibles sur le site internet. C'est une activité organisée par l'Association des sports pour aveugles de Montréal, la SAM, que l'on connaît bien, qui va donc faire un petit tour du côté du lac Saint-Jean. 14 cyclistes vont donc enfourcher leur vélo tandem pour pédaler sur la véloroute des Bleuets, portant des dossards vert fluo. Les 7 personnes avec une déficience visuelle vont donc avoir le plaisir de visiter ce coin charmant du Québec. Ce sera pour nous une tournée fantastique où vélo et vitesse se conjugueront pour une expérience inoubliable. Nous explorerons par l'ouïe, l'odorat et la description de nos guides des lieux d'une beauté inouïe. Nous goûterons de près l'accueil proverbial des gens du lac Saint-Jean puisque 2 de nos guides bénévoles sont justement de la région d'Alma. C'est souligné par Jocelyne Richard qui est la présidente de l'Association des sports pour aveugles de Montréal. L'itinéraire a été élaboré pour permettre de bien répartir le nombre de kilomètres à chaque jour. Le lundi 21 août, ce sera de Saint-Félicien jusqu'à Roberval, une trotte de 44 km. Le mardi 22 août de Roberval à Alma. Le mercredi 23 août de Alma à Dolbeau, 100 km. Et le jeudi 24 août de Dolbeau jusqu'à Saint-Félicien. Donc, ça promet. J'espère qu'ils sont en forme. Je ne suis pas sûr que moi, je serais capable de le faire. Et une autre nouvelle que je voudrais également vous souligner parce que je trouve que c'est une initiative intéressante. Elle est tirée du site du journal Le Courrier du Sud. 9 jeunes avec une déficience visuelle auront leur appart à eux. Grâce à l'appart à moi, 9 jeunes adultes ayant une déficience visuelle franchiront un pas de plus vers l'autonomie et concrétiseront une grande étape de leur vie, habiter dans leur propre appartement. Le projet verra le jour au printemps 2018 sur le chemin de Chambly dans l'arrondissement de Saint-Hubert. Le bâtiment tout neuf abritera 10 logements, un 4,5 et un studio et accueillera des jeunes adulte de 25 à 32 ans. Un intervenant demeurera sur place afin d'assurer une certaine supervision. Alors que chacun des résidents occupera une activité de jour, que ce soit un emploi ou un bénévolat. Le bâtiment, dont la construction va débuter à l'automne, comptera aussi une aire commune. Chacun à sa manière pourra aider à préparer le souper sous la supervision de l'intervenant, explique le président de l'organisme L'Appart à moi, Daniel Leblanc. On veut créer une vie communautaire. Ils auront leur studio, mais on avait aussi le souci de faire en sorte qu'ils ne s'isolent pas. Ce dernier est le père de 3 enfants, dont un ayant une déficience intellectuelle. J'aime de plus en plus l'expression différence intellectuelle plutôt que déficience intellectuelle. Elle a été utilisée par Annie Pelletier, qui est la marraine des Olympiques spéciaux, précise-t-il. Je pense que moi aussi, je vais prendre la bonne habitude maintenant de dire différence intellectuelle. Et je vois qu'il y a des hochements de tête d'approbation autour de la table. Une dernière petite nouvelle que je vais vous lire dans un instant. Et puisqu'on va parler un petit peu plus tard d'Alzheimer, ben il y a une nouvelle sur une nouvelle recherche en fait qui est faite à l'hôpital d'Israël, qui, alors que des chercheurs israéliens cherchent en fait à déceler les premiers signes de la maladie d'Alzheimer grâce aux yeux. Hein, on dit souvent que les yeux sont les miroirs de l'âme, mais maintenant les chercheurs d'un hôpital en Israël affirment que les yeux pourraient être une fenêtre sur le cerveau. Ils utilisent des techniques avancées d'imagerie et un nouveau dispositif médical pour suivre les changements de la taille des pupilles qui, espère-t-il, pourraient conduire à la détection précoce de la maladie d'Alzheimer. L'expert israélien en ophtalmologie, le docteur Yigal Rodenstrike, chercheur dans le domaine rétinien, affirme que son équipe de l'hôpital Sherba de Ramat Gan a peut-être trouvé un moyen de déterminer si les personnes développeront la maladie d'Alzheimer en examinant leur rétine pour trouver les signes de la maladie qui est redoutée. L'examen de la rétine donne un accès direct au cerveau. Il peut être facilement mis en place grâce à un système d'imagerie non invasive et pourrait potentiellement permettre un dépistage précoce de la maladie à un stade où les symptômes cliniques ne sont pas encore apparents, pensent les chercheurs. C'est un article que j'ai trouvé dans le journal The Times of Israel. C'est les manchettes pour aujourd'hui et on passe dans un instant à la première entrevue de la journée. On parle de Alzheimer, de la maladie d'Alzheimer au Québec. Selon les données que j'ai trouvées sur la Société d'Alzheimer du Canada, il y aurait 141 000 personnes qui seraient touchées par la maladie au Québec seulement et 31 000 seulement dans la région de Montréal. Mais quand on dit ces chiffres-là, Lydia Borges, qui est notre première invitée, on pense aux personnes qui ont la maladie, mais il faut aussi penser à toutes les personnes qui sont autour, qui gravitent autour de ces personnes qui ont cette maladie.
Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison.
Ça peut bouleverser le quotidien de plusieurs personnes. Et pourquoi avez-vous choisi d'utiliser ce thème-là dans une prochaine création artistique?
Alors, oui, premièrement, ça chamboule énormément la vie, pas seulement du proche aidant, mais aussi des proches aidants directs. Donc, c'est toute la famille qui est concernée. Et le fait d'avoir choisi cette thématique, c'est parce que je suis d'origine brésilienne. Et avant d'immigrer, en 2010, j'ai vu un spectacle au Brésil à propos de la maladie d'Alzheimer et ça m'avait fortement touchée. Une fois rendue ici, je me suis dit, si un jour je fais une création, j'aimerais parler de ça. Et le destin a voulu que ma belle-mère, elle soit touchée par la maladie. On a découvert 2 ans plus tard. Mm-hmm. Et donc là, j'ai commencé à approcher des artistes bien établis ici, parce que je voudrais faire dialoguer ma manière de créer au Brésil avec les manières de créer ici aussi.
Et le médium que vous avez choisi, c'est le théâtre?
Oui, c'est ça. Le théâtre m'a choisi quand j'avais 8 ans. Et depuis là, on est mariés.
Et comment votre expérience personnelle avec votre belle-mère, que vous dites, a influencé cette création-là? J'imagine que ça devait être difficile de traiter d'un sujet auquel on est confronté dans sa vie personnelle.
En fait, c'est presque rassurant de pouvoir traiter de ces sujets et d'approcher la maladie d'une manière qui n'est pas à l'interne. En fait, on vit ça. Mon beau-père, il s'en charge très, très bien. C'est lui le proche aidant de ma belle-mère. Mais en commençant à rechercher à propos de la maladie, je découvre des choses qui m'aident à comprendre ma belle-mère, en fait, qui m'aident à comprendre aussi mon beau-père et ses besoins. Donc, en fait, la recherche pour le spectacle m'aide dans la vie quotidienne.
Et là, ces apprentissages-là que vous avez acquis, vous voulez les transmettre d'une certaine manière avec le médium du théâtre dans une pièce qui s'appelle « Fragments d'Anna », pour laquelle vous avez reçu du soutien financier récemment. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette création-là? On en est à quel point en ce moment dans le processus?
Alors, j'ai eu une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts de Montréal. Ça s'appelle la bourse Vivacité, qui est une bourse donnée aux artistes professionnels immigrants qui sont là depuis moins de 5 ans. Merci. Et donc, avec cette bourse, je vais financer mes laboratoires de création. Ce n'est pas une bourse de production, c'est une bourse pour la création. Donc, pendant un an, je vais faire la recherche à propos de la maladie d'Alzheimer, soit une recherche sur le terrain en train de recueillir des témoignages qui vont constituer la dramaturgie, soit en allant rencontrer la Société d'Alzheimer de Montréal, qui maintenant est déjà un partenaire, le Baluchon Alzheimer, qui est un autre partenaire. Donc, pour avoir des renseignements plus théoriques, en fait, pour comprendre la maladie d'une manière plus théorique, médicale. Et aussi, on aura les laboratoires de création, et nous avons eu deux résidences de création, une au Théâtre aux Écuries. Quand je dis nous, c'est l'équipe, en fait.
Oui.
Au Théâtre aux Écuries.
On devine bien.
Et l'autre à la scène. Donc, pendant un an, on sera en salle de répétition, en train d'improviser et de créer ce matériel qui va aboutir en juillet en spectacle.
Donc, juillet...
2018.
Donc, l'été prochain. Donc, en ce moment, vous êtes sur le terrain, vous êtes encore en phase de co-création avec les histoires qui vous sont emmenées, mais vous avez déjà une bonne idée de l'histoire qu'on va retrouver dans cette pièce-là.
Ouais.
Sans trop nous en dévoiler, vous pouvez quand même nous mettre l'eau à la bouche un peu.
Avec grand plaisir. Donc, en fait, le public va rencontrer Anna, qui est une madame qui habite toute seule. Et le public va oublier cette entrevue que je donne aujourd'hui. Et peut-être il ne saura pas qu'elle est atteinte d'Alzheimer. Ils vont savoir seulement qu'elle est une madame qui va recevoir une visite le jour de sa fête. Et le public sera avec elle dans une cuisine. On espère réussir à faire la production dans une vraie cuisine.
Oh!
Ouais. Et ce sera pour 20-30 personnes.
Donc, ce sera un spectacle très intime, mais aussi
intime.
Immersif. Donc,
ouais.
Est-ce que ce sera même collaboratif? Est-ce que les gens vont pouvoir interagir?
Oui,
ah ouais,
interagir en action aussi, parce qu'ils vont préparer les gâteaux avec elle. Donc, ils vont préparer la fête, monter la fête avec elle. C'est ça l'idée. Et à aucun moment, elle va dire qu'elle a l'Alzheimer. En fait, elle va parler à propos des proches aidants, sans le nommer en tant que proche aidant. Donc, elle va dire « Ah, cette madame vient souvent ici chez moi. Je ne sais pas pourquoi. Elle est toujours ici pour voir si j'ai pris ma douche, si j'ai mangé. » Mais elle ne va pas dire qu'elle a de l'Alzheimer.
Mais est-ce que les spectateurs vont déjà savoir que c'est l'Alzheimer ou ça va dépendre de la campagne de promotion que vous allez vouloir faire du spectacle, j'imagine?
C'est ça. Ça dépend de la campagne. On est en train d'étudier comment on va approcher ça. Mais idéalement, les personnes qui ont côtoyé la maladie, au cours du spectacle, ils vont se dire « cette madame a de l'Alzheimer ». On va laisser de petits signes, donc de petits indices, un objet qui ne devrait pas être dans l'armoire, de petites choses.
Mm-hmm.
Et aux dernières 5 minutes de la pièce, là, on révèle carrément qu'elle a la maladie. Mais mon but, c'est vraiment de faire, avec ce spectacle, je veux aider les personnes atteintes à briser leur isolement.
Ouais.
Parce qu'une fois que le diagnostic est fait, très, très souvent, les gens s'éloignent. Et cette personne, elle va rester encore fonctionnelle et super bien fonctionnelle pendant des années.
Mm-hmm.
Et parfois, on coupe tout son cercle social des années avant que quelque chose se passe parce que la personne a peur, les personnes ne savent pas comment interagir avec la personne atteinte. Donc, mon but, c'est de dire, vous voyez, vous venez de passer un après-midi avec Anna, une personne fort intéressante, heureuse. Donc, ne l'abandonnez pas. L'Alzheimer, c'est un de ce côté. C'est pas sa définition en tant que telle. Donc, c'est ça le but.
L'objectif, c'est de montrer, en fait, une fenêtre la plus fidèle possible de ce que peut être la réalité du quotidien avec une personne Alzheimer, en fait, mais aussi de rendre hommage à ces personnes atteintes de cette maladie.
Tout à fait. C'est une personne qui est atteinte à un stade léger, intermédiaire, mon personnage, mais c'est exactement ça. C'est de rendre hommage et de rendre hommage également aux proches aidants et de dire chapeau parce que votre quotidien est tellement, tellement dur et vous faites un sacré beau boulot et parfois on ne se rend vraiment pas compte et ça n'est pas mis en valeur. Mais bravo, c'est ça le but.
Tout à fait. Puis, est-ce que vous espérez que votre belle-mère puisse venir voir la pièce en juillet prochain?
Sans doute, elle sera ma première invitée.
Ce sera la première invitée, sans doute, à être dans la salle le soir de la première ou de l'avant-première. Quel concept extraordinaire! Moi, je suis déjà vendu au concept. J'aime beaucoup le style immersif dans les pièces de théâtre. Je trouve que c'est une bonne manière de renouveler le médium, surtout pour des personnes qui sont moins initiées au théâtre, peut-être, qui sont un peu rébutées à l'idée de s'installer dans un siège loin des acteurs pendant 2 heures. De faire ça de manière très intime, comme ça peut donner le goût à des gens de s'initier au théâtre, n'est-ce pas?
Au Brésil, c'est très commun, ça. Oui, ça s'appelle le théâtre d'appartement, ça existe depuis 10-20 ans, mais ça vient tout d'un courant de post-dictature, la dictature, que c'était super dur. Et les artistes devraient se réunir dans les maisons, en fait, pour parler de ce qu'ils voulaient, pour montrer les arts qu'ils voulaient. Donc, c'est de là que ça vient.
Et à Montréal, on en voit de plus en plus de ce spectacle-là. Bien, merci beaucoup, Lydia Borges.
Merci
on vous
à
souhaite
vous.
Beaucoup de succès à vous et à Fragment d'Anna, cette pièce sur laquelle vous travaillez sur un sujet dont on ne parle pas assez, la maladie d'Alzheimer, mais je pense en parler de la manière que vous voulez le faire. C'est vraiment une excellente initiative.
Merci beaucoup de l'invitation. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être là.
On va aller en musique, puis après ça, bien, on va parler avec Sylvie, avec vous, qui a des petites suggestions lecture pour nous, pour les parents et pour les enfants qui, on leur souhaite, soient en bonne santé mentale. Donc, on s'en va en musique et on revient tout de suite après avec Sylvie.
J'ai des idées aquatiques comme des chansons marines, des échantillonnages. Ma tête est une machine. Des idées aquatiques comme des chansons marines. J'ai des idées aquatiques comme des chansons marines où se cachent des images. Cerveau dans l'abîme, des idées aquatiques comme des chansons marines, inspiration à la nage. N'attends pas, n'attends pas que je revienne. N'attends pas que je revienne. J'ai le cœur comme une fontaine. N'attends pas que je revienne. L'hiver et le gel, en tout figé, j'ai bu de l'antigel pour tout liquéfier. J'ai joué avec le temps, les mots et les sons, malgré les contretemps, malgré les saisons. La glace a cédé, tout a déchelé, j'ai rassemblé mes morceaux, éparpillés. La banquise disparue, tout a fondu, inspiration revenue. N'attends pas que je revienne.
Néglige à toutes mes chums mégalos. Sachez ce que le jeu exige quand il s'offre en cadeau. La terre ne tourne pas rond, aux cieux je demande pardon. En attendant, moi je suis en feu, fait que j'ai sauté à l'eau. Y'a que l'inspiration qui va me guider. Naviguer, naviguer sans retour, sans jeter l'ancre. Chaque jour est une renaissance, sortie du cœur de la mer. Mais ma mère a perdu son sens, son essence est le nerf de ma guerre.
Fallait que je vous mette au courant. Je l'ai dit à l'océan. Il m'a si bien écouté que du haut du mât, je m'y suis jeté.
N'attends pas que je revienne.
Lily Kao, n'attends pas, c'était la chanson qui vient d'être jouée à M l'été, le magazine de Canal M. Toujours Kevin Breton au micro. On s'apprête à se rendre à la chronique de Sylvie Lauzon, directrice générale à la Fondation des Petits Trésors. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va toujours bien.
Donc, j'en parlais en introduction, le thème de la journée, c'est probablement un esprit sain dans un corps sain. En visitant le site Internet de la Fondation des Petits Trésors, en faisant des recherches statistiques, j'ai réalisé que 250 000 adolescents ou enfants au Québec auraient un trouble de santé mentale. Donc, on peut penser anxiété, santé mentale.
Déficit de l'attention, on parle de psychose, on parle de dépression, de problèmes de l'humeur. C'est énorme. Et 250 000, là, c'est maintenant. Mais si rien n'est fait, à l'aube de l'année 2020, ça va être 375 000 enfants et familles par la bande qui vont vont être touchés par ces problèmes-là.
Là, c'est plus qu'un enfant sur quatre. On le dit, oui. C'est comme le mal du 21e siècle. Oui. Tout à fait. Puis, il n'y a pas effectivement d'âge, malheureusement, limite où les troubles de santé mentale peuvent se pointer, les troubles de santé mentaux. Donc, aujourd'hui, on va essayer de faire un peu de prévention par la littérature. Ça tombe bien, c'est la mission hein, chez Vues et Voix, oui, de faire la promotion de la lecture. Donc, c'est une excellente idée de chronique que vous avez aujourd'hui. Il y a plusieurs livres sur, oui, la table, je vous écoute.
En fait, là, ce sont des petits trésors dont on ne parle pas assez. À l'hôpital Rivière-des-Prairies, il y a un centre de communication en santé mentale et on produit toutes sortes d'outils, mais ce sont des outils spécialisés. Là-dedans, il y a des jeux, il y a des livres et ils sont disponibles. D'ailleurs, il y a l'adresse courriel, ccom.qc.ca. Vous irez sur le site de Vues et Voix, vous allez trouver ça. Mm-hmm. Ce sont vraiment des produits extraordinaires qui ont été développés par des docteurs en psychologie, des gens qui s'y connaissent, qui ont une expérience clinique et c'est tout basé sur de la recherche. Le premier dont je vais vous parler, ça s'appelle les contes de résilience. C'est un petit boîtier dans lequel on retrouve 16 contes. C'est illustré, bien sûr, c'est pour les enfants. Ce ne sont pas des histoires à donner à nos enfants à lire seuls. Ce sont des histoires qu'on les amène à lire ensemble. Il y en a 16 thèmes. Ça touche beaucoup les enfants qui ont un quotidien extrêmement difficile, les enfants qui vivent en famille d'accueil, les enfants qui sont victimes de violence.
Ou...
Oui,
et
beaucoup
parents,
de choses
ou...
en même temps. Vraiment, ça s'adresse vraiment à des enfants qui ont une vie difficile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on passe toujours par les animaux. Il y en a 3 que j'ai devant moi. Là. Il y en a un, entre autres, qui s'appelle « Sucrinet a mal à ses racines ». En fait, c'est un arbre dans une forêt qui est déraciné. Donc, on parle du déracinement dans les familles, des séparations, on parle de l'attachement, de tous ces concepts-là qui sont pas faciles à saisir.
Ça peut rejoindre le concept de l'immigration,
oui,
aussi, hein,
aussi,
une famille qui arrive au Québec,
et
par
ça
exemple.
Peut être très difficilement, ça peut être vécu difficilement par les familles. Il y a aussi Fleur d'aile a un grand besoin de chaleur. Alors, cette petite fille, ou cette petite libellule a toujours besoin d'être en contact avec les gens, même au risque de se brûler. Elle a donc des comportements qui sont pas nécessairement adéquats. Et il y a un autre, Mumba est tellement en colère, alors ça tourne autour de la colère. Mumba déteste. En fait, il déteste pas, mais il est toujours en réaction négative par rapport à tout le monde qui veut s'occuper de lui. Il comprend pas.
On est beaucoup dans l'allégorie. Oui. On comprend. C'est la subtilité, oui, pour faire passer des messages.
Oui, donc ces petits livres-là, il y en a 16 comme ça. C'est le moyen de développer une relation privilégiée entre un adulte et un enfant. Ça peut être un parent, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un intervenant. Et il faut vous dire qu'il y a un guide d'accompagnement qu'il faut absolument lire avant de procéder à utiliser les livres. Et on parle des 3 temps thérapeutique. Donc, tu as le temps de l'identification. Quand l'enfant, la première fois, lit avec vous ou regarde avec vous le livre, il s'identifie à l'histoire. Tout à coup, il commence à se dire « Ah, c'est une histoire, mais ça me ressemble.
Uh-huh. »
Ensuite, il passe à l'action. Donc, il devient un acteur dans l'histoire. Il commence à se raconter. Et puis, la troisième étape thérapeutique à laquelle on arrive, c'est l'alliance. Donc, au bout du compte, l'enfant va établir un lien privilégié avec la personne avec laquelle il aura partagé la lecture. C'est franchement extraordinaire.
Et ces contes-là sont disponibles en les commandant en,
oui,
ligne?
Oui, en les commandant en ligne, c'est la façon la plus simple de procéder. Je vous le dis, c'est pas donné. C'est souvent autour d'une centaine de dollars la plupart des produits, mais c'est fait à partir de recherches. Il y a beaucoup de cliniques également là-dedans, des gens qui ont rencontré des enfants, donc ça vaut le coup d'aller
découvrir
ça. On est certain
qu'il va y avoir des résultats, oui, les résultats escomptés, d'accord, super. On rappelle, le site, c'est le CECOM si on veut avoir de l'information.
Le CECOM. CECOM.qc.ca.
Merci.
Le deuxième dont j'ai envie de vous parler, c'est mieux vivre avec le TDAH à la maison. C'est une brique. Hein?
Oui, c'est ça.
Ça s'adresse d'abord et avant tout aux intervenants. Mais moi, je considère qu'un parent averti, pour avoir moi-même un fils autiste, mm-hmm, on passe notre vie à chercher des ressources, des solutions. Là-dedans, il y en a plein. Il y a un DVD, on vous explique le TDAH à la maison. Il y a une liste d'une vingtaine d'activités à faire avec vos enfants. Parce que ce qu'il faut se dire, quand on est parent d'un enfant qui vit de sévères troubles, que ce soit le déficit de l'attention, que ce soit l'autisme, que ce soit la dépression, on a peut-être tendance en tant que parent à développer des comportements qui ne sont pas nécessairement les bons comportements pour aider tout le monde. C'est pas un reproche, ça arrive. Je le sais, je l'ai vécu moi-même et je le traverse encore tous les jours. Alors là-dedans, on vous indique comment faire, comment briser ces cercles vicieux et comment faire des activités avec vos enfants qui vont améliorer les comportements de tout
le
monde.
On rappelle le titre « Mieux vivre avec le TDAH à la maison ».
Et ce sont tous des spécialistes qui travaillent beaucoup autour de Rivière-des-Prairies. J'en ai un autre ici, Premières Amours. Tu sais, quand t'as un problème de santé mentale, même quand ça affecte souvent la communication. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives à l'adolescence, que tu as envie d'établir des relations avec un
les
autre?
Les premières relations.
Les
intimes.
Premières relations, tu as de la difficulté à communiquer. C'est déjà difficile pour n'importe qui arrive à cet âge-là. Alors, dans cet ouvrage-là, il y a un cahier d'animation. On vous explique c'est quoi. En fait, c'est toujours... Il y a un guide d'accompagnement dans tous les produits dont je vous parle. On vous explique comment faire. Uh-huh. Donc, comment faire pour rentrer en communication. Il y a un DVD aussi. Comment s'y prendre pour avoir une première relation.
Mais est-ce que ça s'adresse à un profil en particulier? Est-ce que c'est pour les...
Moi, je considère là, que ça s'adresse... En fait, je pense que ça peut s'adresser à tous les enfants, toutes les familles ou tous les enfants, tous les adolescents mm-hmm. qui ont des difficultés de cet ordre-là. Puis sincèrement, moi, j'ai pour mon dire que quand tu as une difficulté, c'est clair que tu as besoin d'un outil. Mais quand tu arrives dans la vie et que tu ne sais pas trop comment ça fonctionne, mm-hmm. ça peut être excellent aussi. Pas besoin d'avoir un problème pour se renseigner et apprendre comment ça fonctionne, les relations avec les individus.
Tout à fait. Je pense que ça peut servir à n'importe qui, peu importe l'âge.
Alors, c'est vraiment un beau livre.
On a le temps pour une dernière suggestion.
Pour une dernière suggestion. Oui. Alors, je vais y aller avec le dernier produit du SECOM dont je voulais vous parler.
Peut-être y aller avec deux parce que je vois que vous avez plein de livres encore sur la table.
Je vais y aller avec une trousse qui s'appelle Moi, parent. Ça s'adresse aux parents de jeunes enfants, 0-12 ans. C'est des fiches. Là, j'ai ici le guide d'accompagnement. C'est ça, le nerf de la guerre. Il y a un guide d'accompagnement. Je ne voudrais pas que les parents se sentent incompétents. Quand on a devant soi mm-hmm. un enfant, c'est déjà un défi. Quand on a devant soi un enfant différent, c'est encore un plus grand défi. Alors, dans cette trousse-là, il y a des fiches qui vous donnent des activités, qui vous apprennent à maintenir ou à améliorer les relations avec vos enfants, qui vous apprennent à comprendre cette petite bébite qui est l'enfant qui est devant soi. Alors, c'est aussi une belle trousse. Et qu'est-ce que tu dirais si je terminais avec un livre?
Oui, qui semble être votre coup de cœur, mais qui n'est pas encore disponible. Il va l'être à l'automne.
Oui, j'ai de la misère à me retenir d'en parler. En fait, ça s'appelle Iris Grace, la petite fille qui s'ouvrit au monde grâce à un chat. Uh-huh. C'est une petite fille britannique. Et c'est sa maman qui raconte l'histoire, sa maman qui est photographe. Donc, c'est un livre dans lequel il y a beaucoup de photos. Elle est autiste.
Ah, d'accord.
C'est un petit chat qui, à un moment donné, l'a amené à s'ouvrir au monde. Mais le plus extraordinaire là-dedans, c'est que Lily Grace, à 4 ans, peint
elle
des
s'est mis
choses
à peindre.
Extraordinaires.
À 4 ans?
À 4
vous
ans.
Vous ne voyez pas, évidemment, parce que l'on est à la radio, mais c'est effectivement d'une beauté sublime.
Oh, oui, et c'est cette mère qui raconte son combat pour essayer de...
D'entrer en contact
avec sa fille et de permettre à sa fille de découvrir le monde. C'est magnifique. Alors, c'est une belle découverte à faire à compter
beaucoup
du mois de septembre.
Beaucoup de suggestions lecture. Merci d'avoir emmené tout ça aujourd'hui. J'espère que vous avez une bonne sacoche pour emmener tous ces livres-là sans vous faire mal au dos avec toutes ces briques-là. Merci beaucoup, Sylvie, d'être venue aujourd'hui en studio. On va poursuivre l'émission dans un instant. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Canal M l'été. On sera de retour pour la deuxième demi-heure de l'émission dans un instant. Le mois d'août, c'est également le mois de l'archéologie pour les gens qui ne le savent pas. Donc, pour les passionnés d'histoire et les passionnés d'archéologie, il n'y a pas d'excuse pour ne pas aller en apprendre un peu plus sur les vestiges du passé. Et ça tombe bien, puisqu'on a en studio un archéologue, Hendrik van Gezegem. Bonjour, Monsieur Gezegem.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va bien, merci. On est très content de vous recevoir aujourd'hui. Il y a toutes sortes d'activités qui sont offertes au Québec et à Montréal dans le cadre de ce mois-ci, notamment la programmation du musée Pointe-à-Calière. Mm-hmm. Moi, j'ai appris que c'était comme le seul musée au Canada qui était consacré exclusivement à l'histoire de l'archéologie.
C'est définitivement le plus grand et il y a d'autres musées d'archéologie, évidemment, au Canada, uh-huh. mais...
De cette envergure-là.
C'est définitivement le plus important, oui.
Et je ne me trompe pas en disant que c'est l'endroit à visiter à Montréal si jamais on veut profiter de ce mois de l'archéologie.
À mon avis, il y a beaucoup d'activités, mais le musée Pointe-à-Calière a beaucoup de choses à offrir en ce mois de l'archéologie. En plus des expositions permanentes et temporaires, on a... Les fouilles du site du Parlement du marché Sainte-Anne qui se déroulent en ce moment, qui vont se dérouler jusqu'au mois d'octobre.
On en a entendu parler beaucoup. D'ailleurs, ma collègue m'a envoyé des photos là, de ce fameux Parlement. Pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, ça consiste à quoi?
Ben, c'est un des plus gros sites archéologiques en milieu urbain au Canada. Puis c'est définitivement une des plus grandes fouilles qui se déroule en ce moment. C'est une fouille très importante. C'est un site qui a été construit pour être un marché alors que la petite rivière Saint-Pierre a été canalisée et remblayée. Et ce marché-là a été transformé ou adapté pour devenir le premier Parlement du Canada uni en 1844, qui a siégé jusqu'en 1849 à Montréal. Le Parlement a brûlé pour des raisons historiques complexes et ce qui rend ce site-là fantastique à mes yeux, c'est que les restes de l'incendie, donc tout ce qui se trouvait à l'intérieur du Parlement, ont été scellés en place par la construction d'un marché en 1851.
Donc ça reste en bon état.
Ça reste en bon état. C'est un site qui est extrêmement bien conservé, puis qui a beaucoup, beaucoup de choses à nous dire.
Puis quand on parle d'exploration en milieu urbain, c'est carrément dans le Vieux-Montréal, c'est pas loin d'ici qu'on peut...
Absolument, c'est à Place du Ville-Ouest, donc entre les rues McGill et Saint-Pierre, tout près du musée Pointe-à-Calière. Et on a installé quelque chose d'assez unique à mes yeux. J'ai jamais vu quelque chose comme ça, une proximité entre le public et les fouilles archéologiques de cette envergure-là. On a installé une grande rampe et un pavillon d'interprétation sur le site même où est-ce que les gens peuvent venir visiter et en apprendre plus sur cet endroit-là. Et je dois... dans le cadre de l'archéologie, on a une série de conférences pendant le mois d'août, tous les samedis, qui sont gratuites. Donc, on a demain, à 14h, de 14h à 15h, l'historien Alain Roy, qui est un des experts nationaux en histoire parlementaire. Mm-hmm. Et donc, il va être là pour une conférence causerie sur le site même.
Sur le site même,
oui,
là.
Okay. Ça se passe sur le site même. C'est très accessible. On a pensé aux gens qui avaient des difficultés de mobilité, les familles avec des grosses poussettes... Tout ça, donc on a travaillé très, très fort pour rendre ça le plus accessible possible.
Donc, c'est possible de s'y rendre en fauteuil roulant, par
Absolument,
exemple.
Absolument, oui.
Donc, vous m'avez dit Place du Ville-Ouest.
C'est ça. C'est juste en face du Centre d'histoire de Montréal, au coin des... Le point de rassemblement, c'est au coin des rues Saint-Pierre et Place du Ville, devant le Centre d'histoire de Montréal. Et encore une fois, c'est gratuit. On a ça tous les samedis du mois d'août. Les 19 et 26 août, les gens vont pouvoir interagir avec des archéologues du musée Pointe-à-Calière et des archéologues de la firme Ethnoscope qui fait les fouilles en ce moment.
Donc, pour les personnes qui nous écoutent, qui ont peut-être une perte de vision ou qui sont carrément aveugles, on leur conseillerait de s'y rendre le samedi pour pouvoir avoir accès à les informations des historiens qui vont être sur place en plus.
Il y a des guides de Pointe-à-Calière qui sont sur place pendant les heures d'ouverture, c'est-à-dire du mercredi au dimanche, de midi et demi à 16h30.
Donc, okay.
C'est l'horaire... ou est-ce que le site est complètement ouvert et accessible au public?
OK, parfait. Avec des guides, si jamais on veut avoir accès à une description, par exemple, de ce qui se trouve devant nous. Donc, il y a ces conférences-là, il y a cette fouille-là qui a lieu pas en plein centre-ville, mais en tout cas en plein cœur de Montréal. Il y a également des expositions permanentes qui vont avoir lieu. Est-ce que vous pouvez nous parler de celles qui se déroulent en ce moment à Pointe-à-Calière?
Oui, bien, les grandes nouveautés pour nous, c'est évidemment le site du Fort de Ville-Marie qui a ouvert au mois de mai, qui est accessible par le collecteur de mémoire, c'est-à-dire l'ancien collecteur William qui nous permet d'accéder au site du Fort de Ville-Marie. Puis il y a des belles projections.
Des projections multimédia?
Oui,
ou...
c'est quelque chose de complètement magique. Puis le Fort de Ville-Marie, on a évidemment les restes, les sols de 1642 qui ont été préservés par une série d'accidents historiques, puis qu'on a mis au jour, puis qu'on présente sous un plancher de verre. Donc il y a certains des vestiges du Fort de Ville-Marie, du lieu de fondation de Montréal qu'on peut voir sous ce plancher de verre-là. C'est absolument unique au monde.
Accessible au grand public. Est-ce que ça, c'est juste pendant le mois de l'archéologie?
Non,
ou...
c'est permanent.
C'est permanent, ouais. Donc il n'y a pas de mauvaise raison de ne pas s'y rendre si on n'a pas le temps pendant le mois d'août d'y aller en septembre. J'ai également dans mes notes la visite pour le Parlement du Canada commence sur la rue Saint-Pierre qui est devant le Centre d'histoire de Montréal.
C'est
bien ça?
Mm-hmm.
Super. Et puis, il y a des activités spéciales dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal également?
Le mois de l'archéologie, c'est sûr les gens moi, je ne suis pas impliqué directement, mais les gens qui sont en charge du mois de l'archéologie ont fait beaucoup d'efforts pour justement que l'année où coïncide le 150e anniversaire de Montréal, 375e et tout ça, que le mois de l'archéologie soit un, le plus garni des 13 éditions qui ont eu lieu jusqu'à maintenant.
Tout à fait. Et puis si on parle maintenant du musée en tant que tel, celui-ci également, moi je ne l'ai pas encore visité, là, je suis un petit peu gêné, là, je suis à Montréal depuis 5 ans, je ne suis jamais allé, mais il est accessible également en fauteuil roulant pour, quand on parle des expositions permanentes.
Oui, tout à fait.
Il n'y a pas d'obstacle ou de barrière.
Non, il y a des ascenseurs, des montres de personnes qui permettent l'accès à tous les éléments, incluant une exposition temporaire qu'on a maintenant, l'exposition Amazonie, qui se tient jusqu'au 22 octobre, qui est vraiment une belle exposition qui traite des peuples amazoniens dans toute leur complexité. On voit que les peuples amazoniens, c'est pas des gens qui vivent simplement dans la forêt. Ils ont une culture extrêmement complexe qui est vraiment bien exposée dans cette exposition-là.
Bien établie. Ouais. Ben, si on veut en apprendre plus, on peut visiter le site pacmusée.qc.ca. Moi, j'ai mis ça à mon agenda pour les prochains jours. J'ai également mis à mon agenda une promenade archéologique qui va avoir lieu dans mon quartier à Montréal, à Griffintown. Je ne sais pas, Hendrick, si vous en avez entendu parler.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est la ville qui organise une petite visite. Il va y avoir, entre autres, la Tour d'Aiguillage qui sera visitée, qui semble-t-il être un monument historique à Montréal, qui était comme multifonction à l'époque. Puis également, la Pointe des Seigneurs. Donc, ça aura lieu le 26 août à Montréal. Il est nécessaire de s'y inscrire si jamais on veut profiter et en apprendre plus sur l'histoire et sur le passé de Montréal. Je rappelle l'adresse pacmusée.qc.ca si jamais on veut profiter de ce mois de l'archéologie à Montréal et de toute la programmation offerte par le musée Pointe-à-Calière. En vous remerciant, Hendrick, d'être venu aujourd'hui en studio. Merci beaucoup. Nous, on va retourner en musique et après la pause, bien, on va parler par téléphone avec Josée Saint-Pierre, qui est la directrice de la Fondation des Étoiles. Ils ont remis plus $1 million à différents centres de recherche pédiatriques pour éliminer ou freiner les maladies infantiles. On en apprend plus dans un instant après cet intermède musical.
Il y a des jours de plaine, on voit jusqu'à la mer. Il y a des jours de plaine, on voit plus loin que la terre. Y'a des jours de plaine où l'on entend parler nos grands-pères dans le vent. Y'a des jours de plaine, j'ai vu des métis en peinture de guerre. Y'a des jours de plaine où j'entends gémir la langue de ma mère. Y'a des jours de plaine où l'on n'entend plus rien à cause du vent. J'ai grandi sur la plaine, je connais ses rengaines et ses vents. J'ai des racines dans la plaine, j'ai toutes ses rengaines dans le sang. J'ai des racines en France, aussi longues que la terre, une langue qui danse, aussi bien que ma mère, une grande famille, des milliers de frères et sœurs dans le temps. J'ai des racines en France, aussi fortes que la mer. Une langue qui pense, une langue belle et fière, et des milliers de mots pour le dire, de comment je vis, de qui je suis. J'ai grandi sur la plaine, je connais ses rengaines et ses vents. J'ai des racines dans la plaine, j'ai toutes ses rengaines dans le sang. Y a des jours de plaine où dans les nuages on voit la mer. Y a des soirs de plaine où on se sent seul sur la terre. Et y a des nuits de plaine où y a trop d'étoiles, y a trop de lune, le ciel est trop clair. Y a des jours de plaine
on voit plus loin que la terre. Il y a des jours de plaine où je n'entends plus la langue de ma mère. Il y a des jours de plaine où même mes grands-pères ne sont plus dans le vent. J'ai grandi sur la plaine, je connais ses rengaines et ses vents. J'ai des racines dans la plaine, j'ai toutes ses rengaines dans le sang.
C'était les Charbonniers de l'Enfer qu'on vient tout juste d'entendre. Ma collègue Christiane vient de me souligner qu'effectivement, la station de métro Place d'Armes, qui est pas très loin du musée Pointe-à-Calière, est accessible dorénavant aux personnes en fauteuil roulant qui veulent s'y rendre en prenant le métro. Même que moi-même, j'ai pris le métro pour la première fois à cet endroit récemment. Je peux donc vous confirmer que les ascenseurs fonctionnent bien. Maintenant, on va parler avec José Saint-Pierre, directrice de la Fondation des Étoiles, qui est au bout du fil en ce moment avec nous. Bonjour, Madame Saint-Pierre.
Bonjour, Monsieur Breton.
On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui à l'émission. Il y a une annonce, l'octroi d'un financement $1 million aux 4 centres de recherche pédiatrique du Québec qui a été fait récemment. Donc, pour en apprendre un peu plus, savoir à quoi ces fonds vont servir, on a pensé vous rejoindre aujourd'hui. La Fondation des Étoiles a 40 ans. Pour ceux qui ne la connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait en quoi elle consiste, là?
Certainement. Écoutez, la Fondation des Étoiles, elle est unique dans son genre parce qu'elle amasse des fonds, effectivement, depuis 40 ans. Et ces fonds-là sont remis uniquement à la recherche pédiatrique. Donc, elle est vraiment concentrée sur tous les médecins-chercheurs du Québec. Tous les argents vont à ces chercheurs médecins-là qui sont évidemment choisis à travers certains concours et avec des projets porteurs, et avec des axes qui ont été également choisis d'année en année.
Et donc à une fréquence de quoi à chaque année? Quel intervalle vous remettez des fonds?
À chaque année.
À chaque année.
Les fonds qu'on amasse, sont remis à la Fondation de tout ce qui est la recherche pédiatrique.
Et là, ben, quand on parle de recherche pédiatrique, en fait, on comprend que l'objectif ultime, c'est d'éliminer ou de freiner les maladies infantiles.
En fait, vous avez totalement raison. Notre but, c'est de ne plus exister, c'est-à-dire de ne plus avoir à remettre de l'argent. On est très, très croyant qu'un jour, on va diminuer toutes les maladies infantiles, parce que, comme vous savez, on n'aime pas et les enfants n'ont pas vraiment le droit d'être malades. Donc, on fait tous les efforts et je peux vous dire qu'il y en a énormément qui font des efforts autour de nous, des donateurs depuis 40 ans, pour enrayer, mais il y a beaucoup d'avancées qui se sont manifestées depuis ce temps-là, d'après tous les efforts de nos chercheurs. C'est extraordinaire tout ce qui s'est fait.
Tout à fait. Maintenant qu'on sait que l'argent a été amassé et octroyé au centre de recherche, ben on va se permettre d'être optimiste et d'en entendre un peu parler sur ces projets de recherche-là qui seront explorés. Peut-être qu'on peut commencer par le CHU de Québec qui va s'intéresser notamment aux maladies rares et orphelines. Et on a appris une bonne nouvelle cette semaine, en fait, la mise en place d'un groupe de travail pour l'élaboration d'une stratégie nationale sur les maladies rares. Le Québec n'en avait pas encore. C'est quoi exactement une maladie rare ou orpheline?
Bien, écoutez, malheureusement, les maladies rares, ce sont des maladies qui existent à peu près pas chez les enfants, un pourcentage très, 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 très faible, 0.0%. Mm-hmm. Souvent des maladies graves, des fois dégénératives, des fois mortelles. Donc, étant donné qu'elles sont rares, il y a peu d'argent qui sont ramassés parce qu'il y a peu d'enfants qui ont cette maladie-là.
Elles sont négligées.
Elles sont des fois plus oubliées, je dirais. Mm-hmm. Mais ce ne sont pas des maladies moins graves. Donc, il faut absolument continuer d'aider et de trouver. Et sait-on jamais que ces maladies-là peuvent ne plus devenir rares non plus. Donc, il faut faire attention quand on la nomme rare au départ. On ne sait jamais comment elle peut évoluer, mais il y a tellement de recherches qui se fait par rapport à ça que de plus en plus, je pense qu'on va les découvrir plus rapidement. Et donc, on va aider plus rapidement les enfants qui, malheureusement, naissent ou ont une maladie rare par la suite, après la naissance. Et c'est tout à fait le cas. On veut améliorer les connaissances sur tout ce qui est autour des maladies rares. Et le CHUC a un projet national extraordinaire derrière ça.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, on en profite pour saluer le regroupement québécois des maladies orphelines qui, depuis de nombreuses années, le travaille pour faire pression afin qu'il y ait une stratégie nationale au Québec sur le sujet. On peut également parler du CHU Sainte-Justine qui a obtenu des fonds grâce à votre fondation parce que ça fait un beau lien avec la chronique de Sylvie Lauzon, notre directrice générale de la Fondation des Petits Trésors, qui est venue nous parler de l'importance de la santé mentale, incluant chez les personnes chez les enfants et les personnes adolescentes. Le projet CHU Sainte-Justine traite justement de ce sujet de la santé mentale.
Oui, ben en fait, tout à fait, vous avez raison. La santé mentale, on en entend de plus en plus parler. C'est un axe qui n'est pas facile et donc il est important de trouver rapidement les problématiques autour du neurodéveloppement et de la santé mentale. Donc, c'est notre axe qu'on favorise avec Sainte-Justine. Donc, les sous iront pour cet axe-là et définitivement davantage sur la déficience intellectuelle et l'épilepsie. C'est là-dessus qu'on va miser cette année. Mm-hmm. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui nécessitent des recherches là-dessus et surtout en bas âge parce que plus on découvre rapidement chez les enfants et en bas âge, plus on a des chances de sauver par la suite, évidemment, les enfants, mais tout ce qui est adulte. Donc, ouais. Il faut, tu sais, si on les sauve à l'âge à l'enfance, c'est probablement qu'ils évolueront pas, ils grandiront pas adultes avec ces problèmes-là. Donc, c'est bien important d'y aller à la source comme la Fondation des Étoiles se permet de faire.
Ça permet d'éviter du mal aux proches aidants, puis à la famille autour.
Complètement. Mm-hmm. Et nous, on évidemment, l'important pour nous, c'est de s'assurer que l'argent qu'on remet, elle est aussi faite avec d'autres centres. Donc, nous, on demande un minimum de 2 à 3 centres de collaboration. C'est jamais fait en isolation pour s'assurer qu'il y a un transfert de connaissances rapide, que ce soit juste au Québec ou à travers le Canada. C'est bien important pour nous d'insister sur la collaboration. C'est un prérequis dans les axes que nous soutenons.
Entre les 4 centres, donc le CHU de Québec, dont on a déjà parlé, le CHU Sainte-Justine, également le CUSUM à Montréal et le CHU de Sherbrooke, qui, lui, va s'attaquer aux problèmes de santé périnatale. Je ne sais pas c'est quoi. Est-ce que vous pouvez me dire, José, en quoi ça consiste, les problèmes de santé périnatale?
Ben, du mieux que je peux, parce que je ne suis pas médecin chargé. Mais écoutez, c'est tout ce qui a à faire à la prématurité. Donc, toute maladie qui en découle, soit par des enfants nés prématurément ou des fois même dans le ventre de leur maman. Il y a des chercheurs qui commencent dès le départ dans le ventre de leur maman et ceux qui sont à risque, disons. Mm-hmm. Et par la suite, une fois que l'enfant naît prématurément, il va avoir des recherches qui sont faites pour s'assurer, en fait, que ces enfants-là se développent normalement par la suite. Écoutez, on a, juste que vous sachiez, là, il y a des enfants, et c'est pas ce qu'on veut, hein, mais je veux quand même que vous le sachiez, il y a des enfants nés à 23 semaines. Mm-hmm. Donc, c'est tout à fait des petits enfants, ouais. Si vous imaginez, hein? Et ces enfants-là réussissent pas tous, mais la plupart maintenant réussissent à grandir assez normalement au Canada. Donc, c'est quand même des excellentes nouvelles pour ceux malheureusement qui naissent plus tôt. Mm-hmm. Ça fait partie des recherches qui ont été faites au CHUS. Donc, c'est vraiment extraordinaire de trouver ces éléments-là, là, ces résultats-là. Ce sont des grandes avancées.
Tout à fait. De son côté, le CUSUM va étudier l'inflammation et l'infection, donc 4 grands projets. Mais la Fondation des Étoiles a également remis 500 000 $ à la relève. Il y a notamment une étudiante de McGill qui a des projets de grande envergure qui va maintenant pouvoir compter sur un soutien financier important.
Oui, tout à fait. Ça fait plusieurs années que la Fondation soutient la relève. Cette année, je pense qu'on est à 10 jeunes qu'on soutient à travers tous les hôpitaux et les universités du Québec. Et il y en a une d'entre elles, ça fait quelques années qu'elle est soutenue. Et elle est vraiment du côté là des mécanismes infectieux, inflammatoires, qui peuvent même avoir une incidence sur l'autisme. Donc, ça fait partie là, des informations qui sont regardées vraiment de tout près pour voir comment on peut, encore une fois, diminuer cette maladie-là d'après d'autres symptômes, dont l'infection, l'inflammation chez la mère.
Très heureux de savoir qu'il y a énormément de chercheurs, de chercheuses un peu partout, le talent cognitif au Québec. C'est pas ce qui manque et je suis heureux de savoir qu'il y a des fondations qui leur permettent de pouvoir mener à terme leurs recherches. Si jamais on veut aider la Fondation des Étoiles, est-ce qu'il y a un moyen?
Certainement. Toujours. Alors, à plusieurs niveaux. Évidemment, il y a des dons qu'on peut recevoir constamment pour aider. Mm-hmm. Et ça, vous allez sur notre site en ligne, il n'y a aucune inquiétude. Vous pouvez aussi aider d'une manière bénévolement. On a beaucoup de bénévoles autour de nous. Sans eux, on ne serait jamais capable d'arriver où est-ce qu'on en est. On a beaucoup d'événements, on a beaucoup de levées de fonds, de collectes de fonds, pardon, et d'activités. Alors, écoutez, plus on est nombreux, plus on a des gens qui sont sensibles à la cause et qui veulent y arriver, ça nous ferait des C'est ce qui nous fait le plus chaud au cœur, c'est d'avoir ces gens-là autour dans la famille de la Fondation, parce que c'est à cause d'eux qu'on réussit à faire avancer la recherche. Et ça, je suis très sérieuse dans cette avenue-là. Je vous remercie encore une fois, parce qu'il y a tellement de gens qui sont en besoin. Et on est là pour faire arriver. Nous autres, on n'est que les personnes qui essayons d'accélérer ça.
Donc, si on veut donner de son temps ou de l'argent, on peut visiter fondationdesétoiles.ca ou si on veut également suivre la programmation pour les prochaines collectes de fonds de la Fondation des Étoiles qui a remis plus $1 million de dollars aux différents centres de recherche pédiatriques du Québec. On est certain qu'il va y avoir des résultats escomptés grâce à ces efforts. On parlait avec la directrice de la Fondation, Josée Saint-Pierre. Merci beaucoup, Josée.
Merci à vous, monsieur.
Félicitations à vous et à toute votre équipe pour votre excellent travail qui est essentiel.
C'est vrai, merci beaucoup.
Ça fait plaisir. C'est ce qui conclut presque l'émission de M l'été aujourd'hui. On s'en va un petit intermède musical. Et puis moi, ensuite, bien, je peux vous emmener avec... je vais vous emmener d'autres petites nouvelles en rafale dont je vais vous faire la lecture.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me vous. À l'amour, j'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson.
Je l'aime, je l'aime.
sous la belle voix de Serge Gainsbourg. Je termine très rapidement en vous donnant deux invitations à mettre à votre agenda. Tout d'abord, pour le mardi 15 août, s'il y a des gens de la région de Québec ou d'Ancienne Lorette qui nous écoutent, bien, sachez que le Carrefour québécois des personnes aveugles organise une marche et vous êtes invités à vous y inscrire. Vous avez jusqu'à dimanche pour faire votre inscription en appelant Danielle Lessard, coordonnatrice du Carrefour québécois des personnes aveugles au 418-622-5314 ou sinon à cqpa@bellnet.ca. Si jamais vous avez le goût d'aller prendre l'air avec des bénévoles qui vont vous aider dans votre marche. Également, dans un autre ordre d'idée, mais toujours pour les piétons avec une basse vision, je vais vous parler absolument de l'application Key2Access qui a l'ambition de révolutionner les traversées piétonnes à Montréal et ailleurs au Québec avec une application qui va permettre d'activer à distance les feux sonores. Donc, si vous trouvez que c'est dangereux parfois de traverser les rues, vous entendez mal les feux sonores, ben il y a des gens qui travaillent sur la création d'une technologie qui permettrait de faciliter ça dans l'avenir. Mais là, ils sont à la recherche de cobayes ou de personnes qui veulent bien les aider à tester cette nouvelle technologie-là. Ça va avoir lieu un samedi ou un dimanche d'octobre. Si vous voulez avoir plus d'informations, contactez Sylvie Quentin, qui est agente de planification à l'Institut Nazareth et Louis Braille au 450-463-1710 et le poste c'est le 656. Dites simplement que vous voulez essayer être un utilisateur qui va essayer la technologie Key2Access. C'est déjà tout pour M l'été aujourd'hui. Très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui. Je remercie tous nos invités chroniqueurs. Je remercie également Maurice à la technique et Sylvie Rivard et Clotilde Sey qui ont participé à la recherche pour cette émission aujourd'hui. C'était Kevin Breton avec vous aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Portez-vous bien.